Bonsoir tout le monde. Pour cette dernière conférence publique de l'année 2014-2015, dont le thème était, je vous le rappelle, Islam de France, Islam d'Europe, donc organisé par l'ISM. Donc pour cette conférence publique intitulée « De quoi l'islamophobie est-elle le nom ?», on a deux intervenants, Thomas Deltombe d'une part, qui est journaliste indépendant, essayiste, dans le monde diplomatique et qui travaille en partenariat avec les éditions de la Découverte. Thomas Deltombe a travaillé en particulier sur les médias et l'islam, les médias et l'Afrique, sur l'histoire coloniale aussi. Mais il a publié en 2005 un ouvrage sur l'islamophobie intitulé « L'islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France 1975-2005 à la Découverte ». C'est donc lui qui commencera, qui fera la première intervention, donc Thomas Deltombe. Il est diplômé de Sciences Po et un DEA d'histoire contemporaine. D'autres ouvrages aussi sur les mosquées, immersion parisienne dans des lieux ordinaires, paru à Paris en 2008 aux éditions Le Passager clandestin, ou bien avec Didier Bigot et Laurent Bonnelli au nom du 11 septembre, Les démocraties à l'épreuve de l'antiterrorisme à la Découverte. Le deuxième intervenant sera Marwan Mohamed, qui est sociologue, chargé de recherche au CNRS, associé au Centre Maurice Alba. Il a animé à l'EHESS des séminaires sur l'islamophobie et les sorties de délinquance. Et ses thèmes de recherche portent sur les normes, les déviances et la réaction sociale, sur les jeunesses populaires, les sorties de délinquance. Il a rédigé lui aussi un ouvrage sur l'islamophobie. Plus récemment, en 2013, avec Abdelali Hajat, « Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman » à la Découverte. Et d'autre part, sur les autres thèmes que j'ai évoqués, sous sa direction, donc un ouvrage sur les sorties de délinquance, théorie, méthode, enquête à la Découverte en 2012, et la formation des bandes de jeunes entre la famille, l'école et la rue aux presses universitaires de France en 2011. Donc je laisse tout de suite la parole à Thomas Deltombe, et donc pour deux interventions qui se répondront, et une place pour les questions à la fin. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à tous. Alors, donc, une petite correction, je ne suis plus tellement journaliste, je suis éditeur maintenant aux éditions La Découverte, largement cité là. Voilà, c'est juste un détail. Donc, on a été conviés aujourd'hui à parler du thème, enfin, autour du titre, de quoi l'islamophobie est-elle le nom ? Et effectivement, c'est un débat qui est assez chaud depuis pas mal d'années. Mais il y a un débat, effectivement, sur le terme lui-même d'islamophobie qui est souvent mal compris et, ou en tout cas qui est sujet à diverses interprétations. Et donc, avec Marwan, on s'est appelé avant la conférence et je vais vous proposer peut-être une réflexion sur le mot lui-même, le concept lui-même. Avant de parler plus précisément des recherches que j'avais effectuées sur les discours médiatiques et politiques sur l'islam, et vous verrez que logiquement les deux problématiques se rejoignent. Donc sur le mot islamophobie, il y a deux interprétations, disons, très divergentes qui sont présentes dans le débat public. Une qui me semble une conception qui me semble assez pauvre, qui considère que le concept d'islamophobie est utilisé pour interdire la critique de la religion musulmane, estimant que toutes les religions doivent pouvoir être critiquées, les tenants de cette conception expliquent que le terme islamophobie ne serait rien d'autre qu'un outil de censure. Un outil de censure qui ferait le jeu des intégristes, et je mets ces termes entre guillemets. Il faudrait donc abandonner ce terme, et le cas échéant pouvoir se revendiquer islamophobe. Voilà, ça c'est une conception qui est portée par des gens comme le philosophe Pascal Bruckner ou la journaliste Caroline Fourest, qui ont longtemps soutenu à tort que ce terme d'islamophobie aurait été inventé par d'énigmatiques mollahs iraniens. Alors malheureusement, cette version s'est dégonflée par la suite, puisque en réalité c'est inexact factuellement. La seconde conception est une conception beaucoup plus riche, à mon avis, qui, sans nier les problèmes qui peuvent être attachés à ce concept d'islamophobie, car il y a effectivement on peut effectivement soulever des problèmes derrière la construction de ce mot, islam, phobie. Cette seconde conception estime que le concept d'islamophobie peut être utile pour comprendre les modalités contemporaines du racisme. Pour ne rien vous cacher, comme j'ai travaillé sur les discours publics liés à les discours publics sur l'islam, entre guillemets, je suis partisan de la seconde conception, qui me semble beaucoup plus intéressante, car je pense qu'effectivement, l'islamophobie, le concept d'islamophobie permet de percevoir des évolutions dans l'évolution, enfin de percevoir les évolutions du racisme contemporain. Pour en rester sur la question du mot, peut-être un petit historique du mot, Marwan pourra compléter parce qu'il a travaillé sur ce sujet en profondeur. Je disais tout à l'heure que le concept d'islamophobie n'a pas été inventé par les mystérieux mollahs iraniens, mais c'est un terme qui apparaît dès le début du XXe siècle dans la littérature coloniale, alors de façon assez rare, mais il aurait suffi à Caroline Fourest et à Pascal Bruckner de regarder sur Gallica, donc les ressources en ligne de la Bibliothèque nationale de France, pour constater que dès 1910, on trouve ce terme dans les littératures coloniales, qui revient en 1912, en 1925, etc. Donc bien plus ancien que la révolution iranienne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il est vrai que ce terme disparaît du vocabulaire courant. Il n'était même pas courant, mais il disparaît de la littérature en général, mais réapparaît dans les années 80, sous la plume d'analystes, souvent très brillants, comme Edward Said, l'intellectuel palestino-américain, qui utilise, et ça je l'ai découvert dans le livre de Marwan et Abdelali, en 1985, je crois, qui utilise ce terme pour analyser ce qu'il perçoit être une nouveauté, disons, dans les discours publics anglo-saxons en particulier. Ensuite, ce terme va émerger davantage dans les années 90, notamment dans un rapport publié en Angleterre en 1997, qui utilise ce concept d'islamophobie en titre du rapport, mais également en France, il y a un livre, également en 1997, signé par Soheib Bencher, dont un chapitre est intitulé « Utilise le terme d'islamophobie ». Et Soheib Bencher, qui n'est pas du tout, qui est plutôt considéré par Caroline Fourest comme quelqu'un d'anti-intégriste. Hein, donc, bon. Et ensuite, alors c'est après le 11 septembre que ce mot va véritablement s'imposer dans une grande partie du débat public, avec un livre pionnier, en particulier en 2003, du sociologue Vincent Gesser, qui publie à la découverte toujours un livre qui s'appelle « La nouvelle islamophobie », c'est un petit livre très percutant dans lequel il raconte ce qu'il perçoit être une nouvelle forme de discrimination ou de rejet spécifiquement de l'islam et des musulmans. Et il intitule ce livre « La nouvelle islamophobie ». Ensuite, mon livre utilise dans son sous-titre le concept d'islamophobie en 2005. Et 2005, je crois que c'est l'année où ce terme entre dans le dictionnaire, dans le Robert. Voilà. Et donc là, il y a une sorte de consécration sociale, disons, de ce mot qui est considéré comme acceptable par une bonne partie des gens qui observent ces phénomènes. Alors, effectivement, on en rediscutera peut-être tout à l'heure, et on peut critiquer ce terme. Ce que disent très bien Abdelali et Marwan dans leur livre, c'est qu'aucun terme d'analyse sociologique ou politique n'est parfait. On peut critiquer tous les termes. Le terme xénophobie, par exemple, pose problème. Dans quelle mesure on peut parler de phobie pour des phénomènes sociaux? Bon, ça, c'est une vraie question qui peut être soulevée. De la même façon, islam, est-ce que vraiment ce serait une phobie de l'islam et pas seulement un rejet des musulmans, ce qui est deux choses un peu différentes? Là encore, c'est un débat qu'on peut avoir. Mais très souvent, c'est pas ce débat qui est posé dans le débat public, mais c'est plutôt un rejet en bloc du concept. Qui est un rejet pour des mauvaises raisons en réalité, qui est un rejet qui vise à effacer ce phénomène que je vais essayer de décrire tout à l'heure et Marwan également. Alors, puisqu'on est toujours sur les mots, je vais proposer une définition d'islamophobie que j'ai concoctée dans ma petite tête, qui est contestable donc, mais donc c'est une proposition de définition. Pour dire les choses simplement, on peut dire que l'islamophobie renvoie à tous les phénomènes de stigmatisation et de rejet qui, s'appuyant sur une peur collective, sur les peurs collectives de ce qu'est censé être l'islam, avec des guillemets autour d'islam, vise les personnes musulmanes ou perçues comme telles. Là, c'est la définition que je la redonnais. Donc tous les phénomènes qui de rejet, de stigmatisation, qui, s'appuyant sur un sentiment de peur collective autour de l'objet islam, disons, avec des guillemets, vise les personnes musulmanes ou perçues comme telles. Donc, bon, voilà, ça, on peut dire les mêmes choses avec d'autres mots, mais voilà en gros l'idée générale. Et pour raffiner un peu, on pourrait dire que c'est une forme particulière de racisme, et j'insiste sur ce point, un racisme qu'on pourrait qualifier de racisme post-racial. Post-racial, pourquoi ? Parce qu'il s'émancipe en partie, ou il recouvre en partie, il s'émancipe au moins partiellement des définitions biologiques de la race, c'est-à-dire les vieilles définitions du racisme biologique hérité du XIXe siècle. On n'est plus tout à fait dans ce cadre sémantique-là. Donc un racisme post-racial, mais un racisme tout de même, dans la mesure où il procède à un réencodage de la race à travers un réseau sémantique d'aspects religieux, culturels, civilisationnels, sécuritaires. J'insiste sur cette question de réencodage ou d'encodage, puisque je vais y revenir tout à l'heure. Mais du coup, c'est un discours raciste qui n'a pas l'air de s'appuyer sur ce qu'on appelle traditionnellement la race, mais qui, paradoxalement, re-racialise le débat. C'est-à-dire, par d'autres outils sémantiques, et je vais expliquer lesquels tout à l'heure, on essentialise toujours une catégorie de la population qui est perçue, donc ces gens qu'on appelle musulmans, ou qu'on croit être musulmans, qui sont perçus comme des gens différents déjà, qui sont même construits dans le débat public comme des gens différents, et de cette différence comme des gens potentiellement menaçants, etc. Donc on est dans cette forme de néo-racisme. Et je pense que c'est là que l'outil, le concept d'islamophobie est utile pour comprendre ces phénomènes. Alors évidemment, selon les contextes, les époques, l'islamophobie, selon les pays en particulier, l'islamophobie a des racines différentes. Elle prend des formes différentes, elle se manifeste avec des virulences différentes. Par exemple, il y a une différence entre les discours islamophobes et les actes islamophobes, même s'il y a des passerelles entre les deux. Et les motivations islamophobes sont également variées. On peut, et c'est quelque chose que je fais souvent, distinguer ce que j'appelle une islamophobie active, c'est-à-dire des gens qui véritablement, ou des gens ou des groupes qui véritablement ont une forme d'intérêt à véhiculer un discours de rejet, de stigmatisation des musulmans, d'une islamophobie que je qualifie de passive, c'est-à-dire des personnes ou des groupes qui véhiculent ce discours sans forcément avoir conscience des phénomènes d'encodage et de maquillage que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire et ça, c'est finalement la plupart d'entre nous, c'est-à-dire on véhicule un discours qu'on entend partout, ce qui prouve qu'on partage confusément ce qui est dit très généralement dans le débat public, sans forcément avoir un intérêt ou une vocation militante à stigmatiser les musulmans. Donc là, il y a une distinction qui me semble intéressante à faire. J'avais oublié de vous dire que j'ai apporté plein de une de magazines français, donc je les diffuse comme ça, c'est pas du tout un échantillon scientifique, ça va très vite en fait, mais simplement pour vous montrer, enfin vous mettre dans l'ambiance, parce que vous avez, c'est peut-être des couvertures que vous avez oubliées ou que vous n'avez jamais vues, mais ça illustrera, disons, mon propos qui manquera peut-être d'exemples par manque de temps. Donc je termine sur cette question des mots, et puis on en rediscutera avec Marwan tout à l'heure, pour aborder davantage le sujet de recherche sur lequel j'ai travaillé longuement, c'est-à-dire les discours publics, à la fois politiques et médiatiques, sur l'islam. Et vous allez voir, comme je vous disais, que les deux sujets, le mot et la chose, se rejoignent. Il se trouve que, donc moi j'ai travaillé sur les discours télévisuels, sur les discours de presse écrite, que ce soit magazine, journaux, la radio, et également, à travers eux, les discours politiques sur l'islam. Et j'ai essayé de comprendre comment avait émergé cet intérêt, aujourd'hui presque quotidien, pour l'islam. Et je me suis rendu compte, première chose, que ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 70, en particulier, on ne parlait pas d'islam. En réalité, si on regarde les journaux télévisés, on parle très très peu d'islam. La deuxième chose qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est que les mots utilisés aujourd'hui, on entend parler de communauté musulmane, d'islamisme, de fondamentalisme, de salafisme, bon, c'est des mots qui n'ont pas toujours été utilisés non plus dans le débat public. On peut faire une histoire de ces mots. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire dans le livre que j'avais écrit. Et une troisième remarque qu'on peut faire, c'est que les gens qui sont considérés comme musulmans, qui sont perçus comme musulmans, ont très peu la parole. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important à souligner. d'une certaine façon, les musulmans, si on regarde les discours médiatiques, sont dépossédés de l'islam dont on dit qu'ils sont porteurs. Et très souvent, ce sont des non-musulmans, par exemple des éditorialistes, des journalistes ou d'autres, qui disent, voilà, l'islam, c'est ça, qui montrent des images de l'islam, qui formulent des considérations sur l'islam, sans qu'en réalité, les personnes désignées n'aient la parole. Ça, je pourrais vous donner des exemples par la suite, si vous voulez. Donc, ça, c'est les trois remarques liminaires. Et ensuite, dire que, même si le mot islamophobie, aujourd'hui, est devenu courant, le phénomène lui-même est relativement ancien. Et il date précisément des années 60. Enfin, disons, ses racines remontent aux années 70. Là, je parle de l'islamophobie contemporaine. Je ne me suis pas intéressé à l'islamophobie ancienne, formulée du temps des croisades, par exemple, ou même à l'époque coloniale, même si je me suis davantage intéressé à la période coloniale. Je parle vraiment de l'islamophobie telle qu'elle apparaît aujourd'hui, disons, dans la société contemporaine. Et il se trouve que, vraiment, ce discours apparaît dans les années 70, et il me semble que les fondamentaux des discours islamophobes sont posés très tôt. C'est-à-dire que, au milieu des années 90, disons, entre le milieu des années 70 et le milieu des années 90, quasiment, les discours qu'on entend aujourd'hui sont posés. Et on peut le voir sur... vous allez voir, là, je ne sais pas si ça tourne ou pas, mais la récurrence, ça, par exemple, c'est une couverture de 1989, bon, je reviens au début, si vous voulez, ça date de 1979. On voit une récurrence, et c'est ça qui est troublant, des images et des mots, enfin, des images surtout d'ailleurs, sur l'islam. Donc, pourquoi les années 70? Tout simplement parce que la société française rentre à cette période dans une période de crise, qui est d'abord une crise économique et sociale. On sort du modèle... des Trente Glorieuses, keynésiens, fordistes, etc. De plus en plus, la presse en particulier désigne les pays arabes comme responsables de cette crise et s'interroge sur la place des gens qu'on appelle les travailleurs étrangers en France. À partir du moment où il y a du chômage, un certain nombre de gens disent, bon, est-ce que finalement les travailleurs étrangers qu'on a fait venir en France sont bien utiles? Est-ce qu'il ne serait pas plus utile de les renvoyer chez eux? On a ce type de discours... avec des phrases célèbres, notamment de Jacques Chirac sur ce thème. Et cette crise sociale et économique mute assez rapidement en crise identitaire, une interrogation sur la place de la France, de l'Europe, la place des Blancs dans le monde, et de façon sous-jacente, un questionnement sur le racisme en France. On voit à cette époque un certain nombre de magazines s'intéresser au racisme en France ou des émissions de télévision consacrées à cette question. La France est-elle raciste? C'est une question qui se pose. Et on voit finalement un peu, alors c'est très très schématique, mais deux courants qui vont essayer de répondre à ces questions. Un courant qu'on pourrait qualifier avec beaucoup de guillemets de progressiste, qui va avoir tendance à dire, non, vous comprenez, les immigrés ne sont pas du tout responsables du chômage, ils sont plutôt les premières victimes du chômage, et les pays du tiers-monde, on est encore dans une période où le tiers-mondisme est encore relativement présent, les pays du tiers-monde sont bien sûr bien plus des victimes que des coupables, des problèmes que la France rencontre aujourd'hui. Puis on a un autre courant, qu'on pourrait qualifier là aussi, avec beaucoup de guillemets de plus conservateurs, qui, lui, est beaucoup plus offensif et accusatoire en disant, finalement, les pays arabes, les pays africains sont responsables de leur propre malheur, et non seulement ils sont responsables de leur propre malheur, mais ils exportent avec l'immigration les problèmes en France, et un discours beaucoup plus accusatoire des migrants. Et il se trouve qu'au moment où se passe ce débat, surgit la révolution iranienne de 1978-79. Cette révolution, qui va devenir une révolution islamique avec l'établissement d'une république islamique, va beaucoup aider le pan conservateur, disons, de l'opinion publique, estimant que c'était bien la preuve que c'était eux qui avaient un comportement agressif à l'égard de l'Occident, de la France, etc. Et on se retrouve avec des discours très clivés, disons, avec un retour de vieux schémas orientalistes de l'Occident face à l'islam, un discours qu'on avait assez peu entendu dans les années précédentes. Une vraie coupure, comme s'il y avait une forme de guerre entre ces deux civilisations, l'islam et l'Occident. C'est la période où Édouard Saïd, dont je parlais tout à l'heure, publie son grand livre, L'Orientalisme, qui raconte les racines de ce discours binaire, mettant face à face l'Occident et l'islam, mais c'est aussi le moment où, en 1982 ou 83, je crois, il publie un livre entier sur la façon dont les médias et les experts ont traité de la révolution iranienne. Et il montre que ce qu'il a démontré dans l'orientalisme se vérifie encore dans l'actualité. Ça, c'est un, ce livre a été traduit, je crois, seulement l'an dernier. Très intéressant. Voilà pour les années 70 où ce thème de l'islam arrive dans l'actualité, notamment à travers l'actualité internationale. Les années 80, je vais essayer de ne pas être trop long, les années 80, on pourrait les qualifier d'années de basculement. Et notamment dans les milieux que j'avais qualifiés grossièrement de progressistes tout à l'heure. Il se trouve que l'idée que les immigrés peuvent être des victimes a tendance à disparaître. Et on a une inversion de la logique, et y compris des milieux qui se prétendent ou qui se revendiquent du progressisme, de la gauche, etc., se mettent de plus en plus à dire, mais vous comprenez, effectivement, on l'a vu sur la révolution iranienne, mais on le voit également sur le territoire français, les gens qu'on qualifie d'immigrés sont peut-être aussi responsables de la situation. Et c'est un discours qu'on entend de plus en plus, et bizarrement, dans cette période, début des années 80, 81, 82, 83, les émissions sur le racisme en France ont tendance à disparaître. On entend de plus en plus rarement cette question, la France est-elle raciste? Bon, de moins en moins de réflexions sur cette question. Pour expliquer ce basculement, je pense qu'un événement très important doit être pris en compte, c'est l'arrivée au pouvoir de la gauche. La gauche, en l'occurrence le Parti socialiste, arrivant au pouvoir en 1981, arrivant aux affaires, se veut plus réaliste. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile d'être généreux quand on est dans l'opposition, disons. Une fois qu'on est au pouvoir, c'est plus difficile, et il faut être, entre guillemets, réaliste. Et on voit effectivement ce réalisme se manifester de plus en plus fort entre 81 et 83, et il devient flagrant au moment du tournant de la rigueur, comme on a dit, en 82-83, où là, très franchement, le Parti socialiste s'aligne sur ce qu'on appelle maintenant l'orthodoxie libérale et rejette finalement une grande partie de du programme sur lequel il a été élu en 1981. Pourquoi je vous parle de ça? Ça paraît éloigné des questions d'islam et d'islamophobie. C'est qu'en réalité, il y a comme un vase communicant. Alors que les questions économiques et sociales avaient beaucoup d'importance dans le discours du Parti socialiste avant 81, à partir de 83, c'est de moins en moins le cas. Et on voit cette question apparaître de façon flagrante à un moment précis, au moment précis du tournant de la rigueur, avec des grèves. Il y a des grèves dans l'automobile, dans le secteur automobile en 82-83. Et dans le secteur automobile, il y a beaucoup de travailleurs étrangers. Et là, le gouvernement de Pierre Mauroy va dire que ce n'est pas une question sociale, c'est une question religieuse. Et ça, alors, on peut citer toute une série de citations à la fois de Pierre Mauroy, de différents ministres, y compris de François Mitterrand, qui dit finalement, ce n'est pas une question sociale, c'est une question religieuse. Un des ministres, je ne sais plus si c'est Defer ou Auroux, bon, j'oublie, qui dit c'est une grève sainte de chiites, d'intégristes et de musulmans.
C'est Defer.
C'est Defer, c'est ça, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, et ancien ministre des colonies, d'ailleurs, au passage. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que tout d'un coup, les travailleurs étrangers ne sont plus des travailleurs étrangers. C'est plus une question sociale, ça devient une question culturelle, religieuse même, voire intégriste. Il utilise ce terme, mais même chiite. C'est-à-dire, il plaque un discours qui vient de la révolution iranienne, l'Iran, le chiisme, sur des travailleurs étrangers qui n'ont rien d'iranien, rien de chiite. Donc là, on voit bien, c'est ça que j'appelle l'islam imaginaire, c'est-à-dire c'est des imaginaires qui sont plaqués sur des réalités et qui, pourtant, n'ont pas grand-chose à voir avec ces imaginaires. Et ça me semble être un tournant. À un moment, j'avais même dit que c'était, d'une certaine façon, l'acte de naissance de l'islamophobie contemporaine, parce qu'il me semble que ce phénomène-là, d'éradication de la question sociale au profit d'une lecture culturaliste, religieuse, on est toujours, finalement, dans ce type de processus. Alors, pour expliquer la montée en puissance des discours sur l'islam et les crispations croissantes autour de cette question d'islam, il faut aussi évoquer l'évolution des médias eux-mêmes, de la machine médiatique elle-même, dans la mesure où les années 80 sont une période de grand bouleversement pour les médias français, avec notamment la privatisation d'une partie des chaînes. Les chaînes de télévision étaient toutes publiques et on privatise. Où on crée des chaînes privées comme Canal+, La 5, privatisation de TF1 en 1987. Ce phénomène de privatisation, décidé à la fois par la droite et la gauche, d'une partie du secteur audiovisuel, va avoir des conséquences, puisqu'on va se retrouver dans une logique de concurrence des chaînes qui va favoriser une forme de sensationnalisme, avec des sujets de plus en plus sensationnalistes, choses comme ça. Et par ailleurs, autre évolution importante dans le secteur des médias, c'est la disparition croissante des médias d'opinion, d'une part, et notamment dans la presse écrite, et par ailleurs l'affaissement de la presse écrite. Il se trouve que dans les années 60-70, c'était plutôt la presse écrite qui donnait le « là », et la télévision suivait. On avait l'impression que la télévision mettait en image ce qu'elle avait lu dans les journaux. Dans les années 80, on a une sorte de basculement, un rapport de force qui s'inverse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la presse écrite se met à commenter ce qu'elle voit à la télévision. Ça, c'est assez frappant et c'est une nouveauté. Et donc là, pourquoi je vous parle de ça? Là encore, ça peut paraître éloigné, mais déjà, cette question de sensationnalisme pose un vrai problème, c'est-à-dire qu'on va sur des sujets qui ont l'air d'être consensuels, mais qui aussi frappent l'esprit. Les violences en banlieue, l'intégrisme, ce genre de choses, qui prennent de plus en plus d'importance. Et ça charrie aussi un autre phénomène, qui est l'importance croissante de l'image, avec des images de plus en plus fortes. Et là aussi, ça joue sur la perception de l'islam. Par exemple, ce genre de couverture, ça date de 1986. Là encore, c'est vraiment l'islam imaginaire. Personne n'a jamais, ou quasiment jamais vu quelqu'un avec un voile bleu, blanc, rouge, comme ça, des yeux magnifiques. Bon. Et c'est l'islam en France. C'est pourtant ça qui est censé symboliser l'islam en France. Voilà le type d'image qu'on a dans les années 80. Et ce traitement, donc là, et là j'ai fait des études statistiques, notamment sur les chaînes de télévision, on voit dans les années 80 une montée en puissance de cette thématique de l'islam. Une montée en puissance quantitative, de plus en plus de reportages, d'émissions sur l'islam en France. Mais aussi une évolution qualitative, c'est-à-dire un discours de plus en plus virulent, on va dire. Avec alors cette fameuse couverture, ça c'est 1985, il y a 30 ans, serons-nous encore français dans 30 ans? Réponse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, pourquoi ne pas parler d'islam? C'est très intéressant comme sujet. La question n'est pas de savoir s'il faut ou pas traiter de l'islam, mais la question est de savoir comment on traite de l'islam. Et on traite de l'islam, les médias en particulier, toujours comme un problème en soi. On pourrait très bien dire, voilà, on va parler de l'islam. Je vais vous citer la première grande émission de télévision qui est consacrée intégralement à l'islam en France, c'est d'ailleurs son titre, date de septembre 1987, et Bernard Rapp, qui est un présentateur tout à fait respectable, présente l'émission de cette façon. Pourquoi l'islam en France? Pour justifier le titre de l'émission. Pourquoi l'islam en France? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, c'est la deuxième religion de notre pays, et puis ensuite, c'est 3 millions de musulmans ici en France. Alors, nous allons essayer de mieux comprendre, de mieux vous expliquer ce problème. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve... qu'on retrouve assez souvent. Enfin, vous le verrez si vous. Voilà, c'est un problème, et du coup, puisque c'est un problème, on va essayer de débusquer tous les problèmes qui sont liés à cette question d'islam. Et donc là, on voit, dans ces années 80, ressurgir tout un discours d'aspect très colonial, finalement. Les musulmans qui sont vraiment un problème, apparemment, quotidien, etc. Et un des sujets qui va passionner les journalistes, c'est la question des femmes. Alors, très souvent, vous allez voir, on le voit d'ailleurs, ce sont les femmes qui sont apparemment un objet important qu'il faudrait discuter. Cette obsession des femmes, et ça c'est un vieux schéma colonial, et c'est intéressant ce phénomène-là, parce que ça rejoint cette idée d'encodage dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, défendre les femmes, le féminisme est une valeur positive. Il n'y a pas de doute là-dessus. Simplement, ça dépend de ce qu'on en dit du féminisme. Or, il se trouve que le féminisme, tel qu'il est appliqué quand il est associé à la question de l'islam, il a tendance à créer une sorte de barrière symbolique entre les musulmans et les autres. Les musulmans seraient uniformément sexistes, machistes, très très mal les femmes, etc. Et en creux, on a un discours qui a tendance à dire que les autres, par contre... eux, ils sont immunisés contre ce genre de phénomène. Et c'est là, on voit une sorte de barrière symbolique qui se crée à travers cette question des femmes, qui est extrêmement présente et qui le reste aujourd'hui. Donc voilà, Cette question des femmes renvoie à la question aussi de l'intégration. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une barrière entre les musulmans qui seraient, même quand ils sont français, des gens qui ne seraient pas intégrés à la culture française, à ses valeurs qui sont décrites comme positives, et les autres, les vrais français. Et donc là, il y a une sorte de déni des principes mêmes de ce que sont censés être les valeurs françaises, les valeurs d'égalité en particulier. Et on se retrouve avec des gens qui, pourtant, bien qu'ils aient la même nationalité, se trouvent différenciés. Et c'est à cette période qu'on entend parler des Français de souche, et qu'à cette période que Jean-Marie Le Pen invente ce mot de Français de papier. Il y a deux types de Français. Ça, c'est des discours nouveaux. Et il se trouve que ces discours sur l'islam permettent de faire cette distinction entre les vrais et les faux Français. Et c'est précisément ce discours qui va apparaître presque explicitement en 1989, et là, c'est un tournant, au moment de la double affaire des versets sataniques, l'affaire Rushdie, et de l'affaire de Creil. Cette même année, il y a donc ces deux affaires, je vais vite, mais l'affaire des versets sataniques, qui est décrite comme, là encore, à travers une grille extrêmement binaire, il y aurait l'Occident, où on peut s'exprimer librement, où finalement les auteurs sont libres de s'exprimer, de blasphémer, etc., et le monde musulman dans son intégralité qui serait opposé. C'est une sorte, et ça a été décrit à l'époque, comme une sorte d'affaire Dreyfus mondiale, avec deux systèmes de valeurs opposés et concurrents. Et il se trouve que cette binarité, cette mise en scène du conflit, va être apportée quelques mois plus tard, à la rentrée scolaire de 1989, autour d'une toute petite affaire, d'un fait divers, l'affaire de Creil, c'est-à-dire trois collégiennes qui, portant un foulard, vont être l'objet d'une énorme polémique qui va durer plusieurs mois, et qui va être l'occasion pour les journalistes, et là, beaucoup aussi par les responsables politiques, l'occasion de la mise en scène de la confrontation entre ces soi-disant vrais Français et soi-disant faux Français. Donc, cette affaire de Creil, cette affaire des foulards, c'est la première fois que vraiment apparaît dans l'actualité cette question des foulards qui nous poursuit depuis, va être l'occasion de deux... va avoir deux conséquences, disons. La première, c'est une redéfinition du concept de laïcité. C'est-à-dire que le concept de laïcité, traditionnellement, dit que les services publics sont neutres. À partir de 89, on va avoir une nouvelle interprétation de la laïcité, ce que plus tard, certains appelleront une nouvelle laïcité, qui considère que non seulement les services publics doivent être neutres, mais que les usagers, en tout cas certains d'entre eux, doivent aussi être neutres. Et là, on rentre dans une logique un peu gênante. C'est-à-dire que certains usagers doivent être neutralisés, au sens presque militaire du terme. Ils sont neutralisés, il faut qu'ils soient neutres. Ils n'ont pas le droit d'exprimer leurs convictions. Et d'autres, oui. Bon. Et il se trouve qu'il va y avoir comme ça un emballement médiatique énorme autour de cette... Et c'est cette seconde interprétation, c'est-à-dire la plus offensive, qui va s'imposer. Il va falloir attendre un avis du Conseil d'État, le 27 novembre 1989, qui va rappeler à l'ordre tout le monde, en disant, non, la laïcité, c'est la neutralité du service public. Le port du foulard en soi n'est pas en soi contraire à la laïcité. Là, stupeur du côté d'un certain nombre d'intellectuels, de journalistes, de responsables politiques, qui vont dire, bon, mais ils vont se taire. Leur interprétation va être... Donc ça, c'est le premier phénomène, et cette nouvelle laïcité, cette nouvelle conception de la laïcité va aboutir, après une longue histoire, en 2004, le 15 mars 2004, au vote de la loi prohibant les signes manifestant ostensiblement l'appartenance religieuse, et en l'occurrence la loi sur le voile, pour dire les choses concrètement. Deuxième phénomène qui apparaît dans cette année 89, c'est une nouvelle conception de ce qu'on commence à l'époque seulement à appeler communauté musulmane. À l'époque, on se dit, tiens, comment se positionne la communauté musulmane dans son ensemble? Donc il y a une tendance, c'est une forme d'uniformisation, de la communauté musulmane. Tous les musulmans appartiendraient à cette même communauté. Et cette communauté, en même temps qu'on dit qu'il y a une communauté, qu'on valide l'existence d'une communauté, ce qui est déjà un problème, elle va être décrite comme ayant deux pôles, un pôle modéré et un pôle radical. Et ça, c'est une nouveauté de la période 89 et qui reste encore... très présente aujourd'hui, un pôle, donc des gens qu'on va appeler musulmans modérés, musulmans laïcs, musulmans républicains, musulmans éclairés, etc. Donc il y a tout un vocabulaire de ce type-là. Alors malheureusement, ça intéresse moins les journalistes, mais il y a quand même quelques exceptions. Ah voilà, par exemple, voilà un musulman modéré. Il est français et entre parenthèses musulman, mais il joue au golf et tout va bien. Je dis ça, c'est amusant parce qu'en réalité, derrière cette... Alors, donc on a d'un côté les musulmans modérés, et de l'autre côté les affreux, les intégristes. Alors eux, ils sont qualifiés d'intégristes, fondamentalistes, islamistes, tout ce genre de vocabulaire, très stigmatisant. Bon. Parfois à raison, mais parfois pas à raison. C'est-à-dire que ces concepts sont rarement définis. Fondamentaliste, qu'est-ce que c'est? Intégriste, qu'est-ce que ça veut dire? Islamiste, qu'est-ce que ça signifie? Alors, il y a plein de définitions possibles, mais l'absence de définition pose problème, puisque le flou a tendance à gagner et à contaminer des gens qui, eux-mêmes, ne se considèrent pas du tout comme fondamentalistes ou intégristes. Je me souviens d'une phrase du roi du Maroc, Hassan II, à l'époque, qui était interviewé par un célèbre éditorialiste français, qui disait, oui, quand même, l'intégrisme, c'est pas bien, le fondamentalisme, c'est pas bien. Et le roi du Maroc lui dit, ah ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est parce que je suis fondamentaliste que je suis contre les intégristes. Alors là, l'éditorialiste, il comprenait même pas de quoi il était question. En réalité, pour lui, c'était évident qu'il savait ce que c'était le fondamentalisme. Bon. Et donc, on se retrouve avec ces deux pôles, les gentils, qu'on défend, avec un discours de défense, il faut protéger ces gens, et ceux qui sont méchants, qui nous en veulent, qui ne sont pas comme nous. Deux particularités, deux choses importantes à dire là-dessus, c'est trois choses. La première, c'est le manque de définition. La deuxième chose, c'est qui définit? Parce que pourquoi pas, effectivement, il y a des gens qui sont plus ou moins modérés, radicaux, bon, c'est juste des mots. Mais qui définit ces mots? Et là encore, on s'aperçoit qu'il y a une dépossession, comme je vous disais tout à l'heure. On s'aperçoit que les musulmans, quand on leur dit « Est-ce que vous êtes islamiste ?» Ben non, ou oui, d'ailleurs, il y a des gens qui vont dire « Oui, pourquoi pas ?» Ça dépend ce que vous entendez par là. Enfin, et puis, une autre chose qui est moins perceptible, mais qui est visible sur cette couverture, c'est qu'il y a aussi un discours de classe derrière cette distinction entre modérés et radicaux. C'est-à-dire que, étrangement, dans les reportages télévisés ou les magazines, etc., les radicaux ont tendance à être davantage venus des milieux populaires, alors que les modérés ont tendance davantage à jouer au golf et habiter dans le 5e arrondissement de Paris. Et donc il y a aussi une sorte de discours un peu subliminal derrière cette distinction. Ceux qui sont comme nous, ils sont comme nous aussi socialement. Ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui sont différents, ceux qui sont dangereux, ont tendance à être venus des milieux populaires. Et donc là, on voit aussi un discours quand même de classe aussi, des responsables politiques et médiatiques, qui eux aussi jouent au golf, habitent dans le 5e arrondissement, pour beaucoup. Voilà, bon, ça c'est juste au passage, mais je pense que c'est important de le souligner. Et puis, ce discours va encore se radicaliser, cette binarité entre les bons et les méchants va encore se radicaliser avec l'émergence de ce qu'on appelle le terrorisme dit islamique ou islamiste. Alors là, évidemment, il va y avoir un déchaînement contre eux. Et là encore, on va l'appeler l'islamisme, mais bon, on appelle islamiste beaucoup de gens, par exemple. Je vais faire tourner, ce sera plus simple. Ah voilà, typiquement, musulmans contre islamisme, bon, là c'est musulmans modérés, hein, vous imaginez bien, mais on a des gens qui sont islamistes de façon très variée. Par exemple, Tariq Ramadan est un islamiste selon l'Express, par exemple. Hop, j'essaie de vous retrouver ça. Voilà, Tariq Ramadan, il veut instaurer l'islamisme en France même. Alors pourquoi pas? Pourquoi il ne serait pas islamiste? Simplement, comme on qualifie aussi Ben Laden, l'État islamique, et tout le monde, et beaucoup de gens d'islamistes, du coup, comment on différencie si tout le monde est islamiste? Et là, ça pose un vrai problème. Avec l'émergence de la question du terrorisme, on va avoir un discours qui, à la fois, un discours médiatique, qui à la fois ne cesse de dire « cessons les amalgames, ne confondons pas musulmans et islamistes », mais comme on n'a pas de définition d'islamisme, la confusion est dans l'énoncé lui-même. Et donc on se retrouve avec une sorte de logique de suspicion généralisée où tous les musulmans eux-mêmes, quand on parle d'islamisme à la télévision, se demandent si on ne parle pas d'eux. Et très souvent, on parle d'eux, en fait, de façon un peu codée. Voilà. Et on se retrouve avec une logique de suspicion qui ne va cesser de s'étendre depuis les attentats du milieu des années 90 en France, des groupes islamiques armés algériens, jusqu'après le 11 septembre et tous les attentats qu'il y a eu en Angleterre, en Espagne ou en France récemment. Donc là, on se retrouve avec un discours à la fois extrêmement radical contre des gens qui sont censés être des menaces sécuritaires, effectivement, des gens qui tuent des journalistes. Mais le flou du discours va avoir tendance aussi à mélanger des gens qui sont désignés comme des menaces identitaires, l'identité malheureuse. l'identité menacée, ce genre de choses. Et on ne sait plus très bien si finalement on lutte contre des gens qui portent des armes et qui tuent des gens, ou si on lutte contre des gens qui ont l'air, parce qu'ils sont différents, de nous menacer. Et donc là, la menace est, paraît extrêmement large. Et c'est là qu'on a, alors là, des discours, et là j'en arrive à la fin de mon exposé, mais à des discours de confusion totale finalement, où on entend parler d'ennemis invisibles, de complots islamistes. Je ne sais pas si vous avez vu cette couverture sur le complot. Alors, c'est un discours quand même assez chargé. Les ennemis invisibles, bon, ils sont invisibles, donc ils sont un peu partout quand même. Hein. Ou les complots. Bon, alors la personne, là, en fait, elle n'est pas du tout musulmane, c'est une mannequin qui a été rémunérée pour faire cette couverture-là. Dans les studios, enfin, dans le journal L'Express lui-même. Encore l'islam imaginaire, finalement. Il n'y a pas de musulmane sur la couverture. Voilà. Donc j'en termine là. Je pense qu'on est dans une logique d'une certaine façon de maccartisme identitaire. Il y a une sorte de traque perpétuelle des musulmanes, des musulmans, qui, aujourd'hui, quand ils regardent les journaux, à mon avis, se sentent perpétuellement montrés du doigt, soupçonnés, etc. Et pour conclure, j'en reviens peut-être à cette question d'encodage qui me semble importante et de la relation avec le racisme. C'est-à-dire que tout ce que j'ai essayé de vous décrire rapidement fonctionne autour de valeurs positives. J'ai parlé tout à l'heure du féminisme, valeur éminemment positive en soi, de la laïcité, de la République. Voilà des choses, quand elles sont définies correctement, qui sont tout à fait positives, en tout cas dans les discours publics. Et même la sécurité, d'une certaine façon, effectivement, des bombes qui sautent dans les métros... Il faut bien les éviter. Bon, aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de l'antisémitisme. Alors, il faut lutter contre l'antisémitisme, évidemment. Simplement, la façon dont on parle de l'antisémitisme, c'est comme si seuls les Arabes et les musulmans, les arabo-musulmans, seraient responsables de l'antisémitisme. Là encore, on a un phénomène qui a tendance à créer une barrière symbolique entre les musulmans et les autres, comme si finalement les musulmans étaient le milieu le plus antisémite de France, ce qui permet de dire que les autres, finalement, ils sont immunisés contre ça. Or, la société française a quand même une longue histoire d'antisémitisme qui n'a pas disparu du jour au lendemain. De la même façon, la liberté d'expression. Liberté d'expression, évidemment, valeur éminemment positive. Mais si on décortique la façon dont on parle de liberté d'expression depuis les caricatures de 2006 et encore davantage depuis les attentats du 7 janvier, c'est pour ça que cette liberté d'expression, elle est un peu à sens unique. La liberté d'expression pour certains, mais pas pour d'autres. Et ça, c'est quand même extrêmement gênant. Voilà. Et donc, toutes ces valeurs positives, effectivement, ce sont des questions qui doivent être traitées, c'est même des valeurs, d'une certaine façon, qu'il faut défendre. Parce que, bon, simplement, la façon dont elles sont mobilisées a tendance à valider cette idée qu'il y a deux sociétés, les vrais, toujours, c'est vrai français et c'est faux français, c'est français de papier. Et ce discours, comme il est encodé à travers des valeurs positives, il est de plus en plus décomplexé. Et c'est là, on voit... Alors, les couvertures d'aujourd'hui, elles sont affolantes, je dirais. Et pas seulement les couvertures. Même ça, par exemple. Enquête sur les ennemis de voile, laïcité, intégration. Enquête sur les ennemis de la République. Bon. Une chose, peut-être, pour terminer. Cette islamophobie a tendance à faire perdurer, sous d'autres formes, un racisme ancien. Il a changé de forme, et finalement, il est en continuité avec un racisme qui lui est antérieur. Non seulement il le fait perdurer, mais d'une certaine façon, il le régénère. À partir du moment où l'encodage biologique de la race, quand on dit même les Arabes, si on dit les Arabes dehors, c'est un discours qui est identifié comme raciste. Si on dit les musulmans devraient respecter la République, ça vise finalement les mêmes gens, mais dans un langage beaucoup plus respectable. L'islamophobie, permet d'une certaine façon de rendre respectable le racisme, et donc de le régénérer. Mais il permet aussi de nier le racisme. En disant, ah non, moi je ne suis pas raciste, je suis féministe, je suis laïque, je suis républicain, je suis anti-islamiste, je suis anti-raciste, etc. Simplement, ça rappelle un discours de dénégation qui est assez classique dans le racisme. Ah mais je ne suis pas raciste, j'ai un ami arabe. Je ne suis pas islamophobe, j'ai un ami musulman. Je suis républicain, laïque, etc. La question, à mon avis, qui est intéressante, c'est effectivement... c'est bien que vous ayez un ami arabe, mais quelle est la nature de cette amitié? Si vous avez un discours de type raciste, mais que vous le justifiez, vous le niez en disant « j'ai un ami arabe », il faut s'interroger sur la nature de cette amitié. De la même façon, quand on dit « je ne suis pas islamophobe, je suis républicain », ça, c'est tout à fait possible, mais ça vaut le coup quand même de s'interroger sur la nature de votre féminisme, de votre républicanisme, de votre... Dernière chose pour terminer, cette dénégation ne fonctionne que parce que les victimes de l'islamophobie sont niées, invisibles. On ne parle jamais des victimes de l'islamophobie. Or, elles sont nombreuses. D'abord, les musulmans, évidemment, et en particulier les musulmanes. Je crois que le CCIF avait expliqué que plus de 8 cas sur 10 d'agressions islamophobes touchent des femmes. Donc c'est un féminisme assez étrange quand on dit, mais quand finalement, on est féministe, mais on ne s'intéresse pas du tout aux agressions des femmes. Et plus largement, je pense que les victimes de l'islamophobie sont toutes les populations non blanches en France, les gens qu'on qualifie de racisés. C'est-à-dire, ils sentent bien, même s'ils ne sont pas musulmans, que tout ce discours sur la France qui doit réaffirmer ses valeurs, cette république qui doit être offensive, cette laïcité qui doit être sans concession, elle les vise aussi, parce qu'elle crée cette distinction entre soi-disant vrais Français et faux Français. Et puis, plus généralement, je pense que tous ces discours islamophobes nous touchent tous, qu'on soit musulmans ou non, tout simplement parce qu'elles justifient toute une série de mesures, que ce soit des mesures migratoires pour les migrants ou des mesures sur les libertés publiques, comme la surveillance des courriers électroniques, qui sont justifiées aussi également par cette idée qu'il y aurait une menace, la peur de l'islam, une menace sur notre quotidien. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie. J'ai été trop long.
Merci. Marwan Mohamed.
Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup de l'invitation, merci à tous d'être là pour échanger. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que je comptais dire, et ça c'est l'inconvénient de passer en deuxième, on a beau se téléphoner la veille, et oui c'est pour ça qu'il faut les passer, il n'y a pas de souci, donc je vais être plus court sur certains passages, mais peut-être que revenir sur deux, trois points de ton introduction avant de parler de... peut-être de synthétiser un petit peu cet ensemble-là, c'est-à-dire que tu as pointé différents ressorts sur lesquels s'articuler et sur lesquels prenait l'islamophobie. Donc c'est sur ça que je voudrais revenir peut-être pour les synthétiser et discuter de leur statut, parce que contrairement à un racisme qui s'appuierait sur une espèce de représentation une espèce de théorie raciale biologique bon, complètement disqualifiée aujourd'hui, contrairement aussi à un racisme culturel un peu plus subtil mais qui a quand même du mal à percer aujourd'hui, de dire les Arabes me font peur, ça a beaucoup moins de résonance que de dire que les musulmans me font peur dans le contexte politique actuel. Ça n'a pas du tout le même statut. On voit bien que l'islamophobie est très difficile à étudier, à analyser, à établir, mais parce que justement, il y a tous ces masques qui sont avancés, toutes ces valeurs positives qui sont avancées, et des valeurs positives qui sont sincèrement défendues par un certain nombre de personnes. Et donc on a un même discours et des intentions multiples. C'est vraiment ça la difficulté aujourd'hui d'étudier cette question de l'islamophobie telle qu'elle est configurée, c'est ça. C'est vous avez un même discours, le même enrobage qui peut être un enrobage républicain et qui peut cacher à la fois des postures républicaines et anti-républicaines. C'est vraiment la difficulté aujourd'hui avec ce sujet-là, donc je vais essayer de revenir là-dessus. Mais d'abord, en introduction, tu nous as parlé du golfeur. Je ne sais pas si tu peux en mettre l'image. C'est intéressant, en fait, parce que, bon, si hier, effectivement, c'était une espèce d'exemple... d'exemple de ce que devrait être un musulman modéré, en tout cas un musulman français, est considéré comme tel avant d'être considéré comme musulman. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez assisté, suivi la polémique entre le journal Marianne, l'hebdomadaire Marianne et la station de radio Beurre FM. Pour ceux qui ont suivi, le journal Marianne a fait de cette semaine ou la semaine dernière un dossier sur les complices de l'islamisme. Et il y avait deux pages sur la radio Beurre FM et un certain nombre de ces éditorialistes qui ont été considérés comme complices de l'islamiste en reprenant dans certaines émissions quelques phrases qui ont été, certaines phrases qui font légitimement réagir, dont celle de Mourad Ghazli qui est sur la une, c'est le golfeur, et complice de l'islamiste dans le dossier de Marianne. Enfin, ça, c'est pour l'anecdote, ça c'est intéressant pour, de voir les évolutions. À l'époque où il y a cette une de Mourad Ghazi en tant que golfeur, il s'affirme comme français, franc-maçon, musulman, et donc il a une certaine syndicaliste à RATP, donc voilà, il est considéré, selon l'encodage de l'époque, comme le musulman qu'il faudrait être. Plutôt de milieu, même s'il est syndicaliste, il est cadre, il a une position plutôt économique, plutôt. Il n'est pas en haut, mais il n'est pas non plus parmi les classes populaires qu'il est censé défendre. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais réagir, c'est sur l'idée de maccartisme identitaire. Je trouve l'expression intéressante parce que en ce moment, je fais une petite recherche de terrain. Suite aux attentats du 7 janvier, du 9 janvier, vous savez que dans toute la France, sous la houlette du ministère de l'Intérieur, les services de l'éducation nationale, les services sociaux, en plus de l'administration pénitentiaire, tous les services de l'État, publics et parapublics, ont été mobilisés par les préfectures afin de mettre en place des systèmes, des outils de repérage de ce qui est appelé radicalisation. Donc je ne sais pas s'il y a des travailleurs sociaux ici ou des gens qui sont à l'éducation nationale, mais vous avez même un certain nombre de documents qui permettent de repérer avec des critères de radicalisation. Bon. Donc je ne reviens pas sur ces documents, mais moi j'ai eu accès à des comptes rendus de discussions, de réunions où était discuté le cas de jeunes, soit pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, soit au sein de l'éducation nationale, qui ont été repérés, signalés, et y compris signalés aux services préfectoraux, c'est-à-dire aux services de renseignement, comme jeunes radicalisés. Et parfois, des jeunes qui sont signalés pas seulement par des professionnels, mais par leur famille eux-mêmes, leurs propres parents. Et les dossiers que j'ai eu à voir, c'est pas les dossiers qui sont traités, qui sont gardés par les services de renseignement avec des éléments objectifs. Il y en a très très peu, mais quand même, qui font objet d'enquêtes, d'investigations assez approfondies. Mais j'ai eu accès à des dossiers plutôt donc complètement anonymisés, mais des dossiers qui vont pas être gardés par les services de renseignement, qui sont pas jugés en tout cas crédibles d'un point de vue sécuritaire. Mais et donc, quand on regarde dans le détail ces signes de radicalisation, c'est surtout des signes de religiosité. Et tout y passe. Le fait de faire sa prière, la manière de s'habiller, le choix de ne manger, de ne plus manger de viande, de ne plus manger de porc dans une première étape, d'arrêter de se maquiller, de changer le type de musique qu'on écoute, les réseaux de relations, les amitiés, etc. Bref. Tout ce qui fait un certain nombre de choix de vie, de positionnement dans la vie, notamment pour des adolescents, notamment pour des jeunes. On sait que c'est une période qui est quand même une période où il y a de la recherche, où on s'essaie, où on teste, etc. Tout y passe. Et on a des professionnels qui sont en train d'essayer d'évaluer la question de la radicalisation ou pas. Sincèrement, en tant que chercheur, mais également en tant que gosse des milieux populaires, les trois quarts de ce que j'ai lu, je le croise dans la rue. Où je le croise là où je mène mes recherches. C'est-à-dire pour moi, c'est d'une banalité extraordinaire, ce que j'ai pu lire. Parce que quand on regarde les parcours sur le long terme, on voit qu'il y a des évolutions. Bon. Ça se trouve, si vous lisez vous-même ces rapports-là, ils vont vous parler. Non pas avec un contenu religieux, mais si on enlève le contenu religieux, la question, le fait de chercher, d'essayer là, de changer, de ne plus parler à telle personne, de changer de... Bon, voilà. C'est des choses qui vont parler à tout un chacun. Et là, on a... Des comportements qui sont encodés comme signes de radicalité parce qu'ils sont des formes de nouvelle religiosité ou des ruptures liées à la religiosité. C'est une évolution qui n'est pas négligeable. Parce que ce n'est pas seulement les services de renseignement qui sont dans la boucle avec les outils habituels qui sont les leurs, renseignement territorial, DGSI, etc. On a là tous les acteurs qui peuvent être enrôlés, qui le sont. L'éducation nationale a également communiqué sur le fait qu'il y avait eu plus de 500 cas de radicalisation qui avaient été repérés. J'aimerais rentrer dans l'étude de ces cas de radicalisation. Dans les dossiers que j'ai vus, la plupart des signalements étaient des signalements faits par les parents, et notamment des parents de jeunes convertis à l'islam. C'est pas neutre le fait qu'une grande majorité des cas que j'ai pu observer, c'était des jeunes convertis à l'islam. Je vois très bien dans quel esprit peuvent être un certain nombre de parents dans le contexte actuel et qui voient leurs enfants adopter une forme de religiosité assez poussée. C'est-à-dire que la peur peut être comprise. Elle est ni à condamner, ni à justifier. Elle est juste compréhensible. Donc ça, c'est ce que je voulais dire quand on parle de McCarthyisme, c'est au fond ça. Et tu as dit tout à l'heure, au fond, les victimes d'islamophobie, on ne les entend pas trop. Alors, on les entend un tout petit peu plus dans la presse, notamment dans un certain nombre d'émissions de radio, avec des formats longs ou des enquêtes. Je pense qu'il faut insister là-dessus. C'est qu'on est sur 2-3 années où il y a quand même un certain basculement dans le traitement médiatique de la question de l'islamophobie, de sa reconnaissance. Et c'est aussi parce qu'il y a ce basculement-là que les débats sur le mot islamophobie sont repartis, sont revenus de manière aussi intense dans le débat public actuellement. C'est parce que la reconnaissance est en train de se faire, non pas la reconnaissance internationale, mais la reconnaissance y compris à l'échelle nationale. C'est un point qui me semble important parce que si on prend par exemple le Premier ministre actuel, Manuel Valls, il a dit à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas utiliser le mot islamophobie. En tant que ministre de l'Intérieur, il l'a dit à plusieurs fois. En même temps, le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur a mis sur pied et alimente en statistiques l'observatoire de l'islamophobie du CFCM. Donc ça, c'est un point qui... On peut pas nier cette contradiction apparente entre la positionnement en termes de débat, dans le débat public et puis la pratique d'un ministère dont il a la charge. Après, c'est à confirmer, mais la motion majoritaire du Parti socialiste, celle qu'a proposée celui qui a été réélu secrétaire général, c'est-à-dire Jean-Christophe Cambadélis, merci, fait référence explicitement à la notion et à la thématique de l'islamophobie. Il a été signé par tous les cadors actuels du parti. Donc, ce que disait Thomas tout à l'heure en termes de reconnaissance, les débats sont intenses, mais le mot en train de s'imposer dans le débat public. Et effectivement, la question clé, c'est comment est-ce qu'on le définit, quelles sont ses frontières. Et là, c'est un petit peu plus difficile à mettre en place, en tout cas à établir. Avec Abdelali Ejjat, avec qui j'ai écrit le livre sur l'islamophobie en 2013, on le définit comme processus de racialisation. C'est-à-dire que l'islamophobie repose sur un processus de racialisation et d'essentialisation. C'est ce que tu as dit en gros tout à l'heure. C'est une forme de rejet, clair, mais qui repose sur cette forme d'altérisation des musulmans, c'est-à-dire sur le fait de nier qu'un individu musulman ou présumé musulman puisse être dans une espèce de pluralité identitaire qui est affirmée à tous. C'est-à-dire qu'un musulman n'est que musulman. Et en définitif, il n'est déterminé que par sa religion. C'est-à-dire que ce processus de racialisation repose sur une pensée très déterministe. Deuxième chose, c'est le fait de nier aussi une pluralité communautaire. Il n'y a qu'à voir les unes, hein, la laïcité face à l'islam, au singulier. La République face à l'islam. C'est vraiment le marronnier classique. Les Français face à l'islam. Intéressant, ce type de construction. L'islam, qu'est-ce que c'est? On dirait un homme, l'islam, monsieur islam. C'est-à-dire qu'on parle de lui comme si on pouvait l'humaniser. Et donc, il nous menace, il nous teste. Voilà, c'est un corps homogène. Et d'ailleurs, c'est un corps qui a une envergure internationale. Parce qu'au fond, ce qui se passe en France interagit avec ce qui se passe à l'international. C'est parce que l'islam est pensé comme un corps et que les musulmans sont pensés comme une chaîne qu'on leur demande de se désolidariser de toutes les horreurs commises au nom de leur religion. C'est-à-dire, au fond, l'injonction à la désolidarisation repose sur le postulat de la solidarité. Sinon, elle n'a pas lieu d'être. Et c'est ça, c'est cette perception-là, c'est comme ça qu'on le définit. Les uns et les autres ont tout à fait le droit de critiquer l'islam, ses dogmes, ses théories, ses modalités. Encore faut-il qu'on s'entende sur le terme critique. Qu'est-ce qu'une critique? Vous voyez, je pense que c'est une vraie question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une critique? Qu'est-ce qu'une critique des religions? C'est quoi critiquer une religion? Est-ce qu'une critique argumentée, renseignée, construite? Parce que j'ai lu un philosophe très médiatique, très actuel, qui disait « Les musulmans ne sont pas intégrales parce que dans l'article, dans la sourate et tel verset, il est dit que... » Il y a un argument. J'ai lu le Coran. C'est ce qui est avancé. J'ai lu le Coran. Je sais de quoi je parle. Et les musulmans ne sont pas des gras parce que dans telle sourate, il y a. Donc voyez bien le jeu. Et me traiter d'islamophobe, non, je suis juste dans la critique des religions. Non, c'est pas qu'une critique des religions. On peut critiquer telle sourate, qu'on soit plus ou moins informé, on peut le faire. C'est même un sport national. Mais de dire les musulmans ne sont pas intégrables, les musulmans, les individus, pourquoi? Parce que telle sourate dit que, vous faites, on est toujours, on retombe dans notre pensée déterministe, les musulmans sont déterminés in fine par leur religion, par cette essence religieuse, par le texte, etc. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas cette fragmentation, il n'y a pas cette réalité. L'islamophobie repose aussi sur un déni de réalité. Un déni de réalité empirique. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les islamophobes détestent les sciences sociales, les méprisent, nient les enquêtes de terrain, refusent de les voir. C'est normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un islamophobe qui a un agenda politique, je parle de ceux qui ont la cause, les actifs, comme tu en parlais tout à l'heure, lire le dernier livre, par exemple, de Niloufer Mulé, de lire son livre, c'est un désaveu total. Toutes les théories tombent. Ce qui est montré dans ce livre, après d'autres livres. Je vois ici quelques collègues qui ont écrit là-dessus. Cette pensée-là n'est pas compatible. Le mode de pensée islamophobe n'est pas compatible avec les sciences sociales. C'est contradictoire. Sauf que les sciences sociales reposent sur des méthodes, sur de la théorie, sur des enquêtes, sur de la vérification empirique. Regardez par exemple l'évolution du HCI. Si vous regardez l'évolution du HCI, il y a eu un virage anti-musulman très net dans les années 2000, qui s'est traduit également par une disqualification dans la commission, hein, dans la composition de la commission, une disqualification des sciences sociales, notamment de tous ces chercheurs de l'EHESS qui participent notamment depuis plus de 30 ans maintenant à la connaissance et au fait d'irriguer la pensée administrative et l'action administrative en matière de connaissances religieuses. Je passe rapidement. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que on pourrait résumer l'islamophobie aujourd'hui à travers l'idée qu'il existe cinq piliers. Non pas cinq piliers de l'islam, mais cinq piliers de l'islamophobie en France. Il y a cinq piliers. Et quand je dis de piliers, c'est-à-dire des ressorts socio-historiques, des ressorts politiques profonds qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que l'islamophobie prend une telle ampleur. Ou en tout cas, pourquoi un certain nombre de personnalités politiques, d'élus, de médiatiques, mais aussi dans la population de citoyens, sont sensibles à l'idée que l'islam en soi est un problème, qu'il constitue une menace, qu'il faut y apporter une réponse ferme, et qu'il faut absolument se défendre contre ce qui est construit comme un péril. C'est pas un petit nombre de personnes qui alimentent cette idée-là. C'est un mouvement, si on regarde les enquêtes d'opinion, qui est assez important, qui traverse, et ça c'est une des spécificités, tout le spectre politique. Mais pas sur les mêmes principes. C'est pour ça que je voulais insister sur ces cinq piliers, parce que y a là des différences à maîtriser pour éviter de mettre tout dans le même sac. Alors quand je parle de ressorts, je ne veux pas dire que ces ressorts, que ceux qui sont attachés à ces thématiques-là, sont islamophobes, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est des ressorts qui nous permettent de comprendre comment le discours islamophobe peut prendre, sur quoi il peut prendre, sur quoi il peut adhérer. Parce qu'il n'adhère pas sur le néant. Si à un moment donné on est sensible à une thématique donnée, c'est qu'elle résonne en nous. Qu'on soit élu, qu'on soit simple citoyen, ça résonne en nous. Et c'est pour ça qu'on y est sensible. Alors le premier pilier, Thomas l'a dit tout à l'heure, je pense, hein, dans le contexte français, c'est le mépris de classe. C'est le mépris de classe. C'est l'idée que, d'abord, l'islam est considéré comme la religion du pauvre, du dominé. Thomas a rappelé tout à l'heure que l'inauguration, et la première, sur la période récente, la première construction, le premier événement qui fait la construction du problème musulman, c'est dans les usines de Talbot, de Talbot Poissy et de Peugeot Olney. C'est dans ces usines, et tu l'as rappelé, que on a un conflit de classe classique qui est construit en conflit religieux. C'est dans les usines. Ça, c'est pas quelque chose de qu'il faut passer à la légère. C'est pas quelque chose sur lequel il faut passer aussi rapidement. Quel est le contexte? On a le tournant de la rigueur, tournant néolibéral. C'est le tournant de la gauche, hein. C'est le patronat qui demande de pouvoir licencier massivement et en visant en premier lieu les OS maghrébins. C'est pour ça qu'ils sont autant mobilisés. Et il faut l'accord du gouvernement au début des années 80 pour ces entreprises-là. Et le gouvernement donne son accord. Et on voit la mobilisation sur des faits tangibles. C'est-à-dire que quand on parle d'intégriste, on parle de faits tangibles. Pourquoi est-ce qu'on parle d'intégriste dans les usines? Et pourquoi le gouvernement repose sur cette thèse? Il y a des faits tangibles. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a toujours des faits tangibles. On peut toujours trouver des faits tangibles, d'ailleurs. Si demain, j'ai envie de construire, moi, un problème ouzbek en France, il n'y a pas de problème ouzbek en France. Et s'il y a des ouzbeks dans la salle, qui m'excusent, hein, j'ai pris ça, j'aurais pu prendre autre chose. Mais si j'ai envie de construire un problème ouzbek, vraiment, et que j'ai suffisamment de relais pour le faire, je vais aller chercher, je trouverai de quoi faire un problème ouzbek. Personne n'est parfait. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quoi les problèmes dans l'usine? Les revendications, elles sont classiques. Maintien des emplois, augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail, revendications salariales, syndicales classiques. Et puis, en bout de chaîne, vous avez une demande qui est sur les revendications, qui est l'ouverture d'une salle de prière dans les deux usines. Pourquoi est-ce que c'est revendiqué par les ouvriers? Parce que c'est déjà en place à Renault-Billancourt depuis 1976. Et quand les ouvriers maghrébins le demandent, avec le soutien des syndicats à Renault-Billancourt, le patronat dit « Ok ». Avec l'appui du gouvernement, avec l'appui des consulats, ils ont là une salle de prière, c'est un instrument de contrôle et de patronage formidable. Donc tout le monde y trouve son intérêt, ça pose de problème à personne qu'une salle soit mise à disposition 5 minutes, 3 fois ou 4 fois par jour. Donc c'est la même revendication que font les OS maghrébins. C'est ça le point important sur lequel vont se focaliser un certain nombre d'acteurs qui vont se mobiliser et qui ont intérêt à se mobiliser et pour casser le conflit de classe. Et c'est ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe dans ces usines. Un certain nombre d'ouvriers qui appartiennent à d'autres syndicats beaucoup plus proches du nationalisme vont être ramenés par car pour casser la grève, qui a occupation de l'usine, avec des propos racistes terribles. Regardez les images de l'époque. Elles sont terribles. Les arabes au four, c'est ce qui est scandé par un certain nombre d'ouvriers qui sont ramenés, de militants plutôt proches de l'extrême droite, dans l'usine, par car. Donc ce qui est en jeu là, c'est la fragmentation, dans cette usine, c'est la fragmentation de la classe ouvrière, c'est-à-dire la fragmentation des classes populaires. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas présent dans le débat public, mais qui est essentiel en termes de compréhension de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans la construction et l'entretien de ce problème musulman. C'est essentiel. Parce qu'à partir du moment où vous avez une population qui est attaquée sur une partie de son identité, elle va se défendre sur cette partie de cette identité. On défend la partie de nous-mêmes qui est la plus menacée. On consent la plus menacée. Et pendant ce temps, vous n'avez pas d'autre mobilisation possible. Deuxième pilier, c'est la xénophobie, c'est le racisme, populisme, nationaliste. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a une articulation, à la fois une continuité et une articulation avec la représentation de l'indigène et puis le racisme anti-immigré, anti-arabe, etc. C'est souvent quelque chose qui est reproché au terme islamophobie. Au fond, vous parlez d'islamophobie, mais c'est du racisme anti-arabe. Non, mais oui. Oui, parce que ça s'articule, qu'on ne peut pas séparer, il n'y a pas de coupure, on n'est pas passé de l'un à l'autre. Et bien sûr, du côté de l'extrême droite, on peut se saisir de la rhétorique républicaine, c'est qu'on n'a plus besoin d'être dans une rhétorique anti-immigrée, anti-arabe, qui finalement restera minoritaire. Et parce que Jesser a bien montré que le discours islamophobe aujourd'hui, il est soutenu, il est aussi développé par des intellectuels, des figures, des personnes qui sont d'origine maghrébine. On pourrait prendre beaucoup d'exemples. Donc, je veux dire, de croire que l'un et l'autre sont exactement la même chose, non, de les séparer, non, d'où la complexité. Il faut articuler les deux. Ça me semble important. Et donc, je passe vite là-dessus, parce qu'au fond, quand on est xénophobe, c'est très facile d'être islamophobe. À la rigueur, c'est peut-être même beaucoup plus confortable. Troisième pilier, c'est la dynamique séculariste de la société française. Alors, tous ceux qui sont pour la sécularisation ne sont pas islamophobes. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ce que je veux dire, c'est cette dynamique séculariste qui se caractérise par un affaiblissement des normes religieuses dans la société française, dans la vie sociale en France, tout au long du XXe siècle, est remis en question pour une partie des personnes qui sont attachées à ce mouvement-là par l'émergence, en 89 notamment, de ces petits foulards sur la tête des collégiennes, des jeunes femmes en plus, qui interviennent la même année de la chute du mur de Berlin, du bicentenaire de la Révolution, sans parler de l'affaire Rushdie. C'est-à-dire qu'en 89, vous avez quand même une conjonction d'événements qui permettent aussi de penser l'impact et l'ampleur qu'a pris ce micro-phénomène dans le débat public français. Donc cette dynamique séculariste, elle a des branches. Ce qu'on peut inscrire là-dedans, c'est à la fois une partie du courant marxiste. Une partie du courant marxiste qui, par anticléricalisme, parce que la religion est l'opium du peuple, parce que la religion est aussi un obstacle à la lutte, à la vraie lutte et au vrai rapport de force dans la société française, voit d'un très mauvais œil d'autres formes d'identification et qu'ils considèrent comme des freins. Des identifications d'ordre racial ou d'ordre religieux. Donc c'est plutôt mal vu. Mais vous avez ce débat public aujourd'hui, ce débat dans le milieu académique, entre courants entre courants théoriques, entre ceux qui pensent que la question sociale est au centre, d'autres qui parlent un petit peu trop de la question raciale et on leur fait le reproche. Vous avez ce débat actuellement dans les sciences sociales. Bon, bien, on peut aussi comprendre et mettre en avant cette dimension-là, notamment du côté de l'extrême-gauche. Vous avez à l'extrême-gauche un certain nombre de personnalités, ce n'est pas les plus nombreuses, qui se sont illustrées en tenant des propos très virulents, des cadres du Parti communiste, notamment du côté de Vénissieux, mais pas seulement, qui se sont illustrés par des propos d'essentialisation de l'islam, de rejet, etc. Et on ne peut pas. Et qui étaient pourtant. Qui s'inscrivaient dans la lutte antiraciste classique. Là-dedans, vous avez l'anticléricalisme traditionnel. Quand je dis anticléricalisme traditionnel, c'est celui qui se concentre et qui se mobilise contre tout pouvoir, toute forme de pouvoir religieux, et là qui ne fait pas de distinction nécessairement entre les religions, mais qui se mobilise également et qui peut être sensible à l'idée de la menace de l'islam par rapport à la posture qui est la leur. Et quand je parle d'anticléricalisme traditionnel, excusez-moi, les expressions ne sont pas très scientifiques, mais c'est vraiment par commodité de présentation, je le distingue d'une autre forme d'anticléricalisme qui ne se mobilise pas seulement contre les institutions et les pouvoirs religieux, mais qui est en train de glisser en se mobilisant contre les croyants et les manifestations individuelles de la religion. Et là, c'est un glissement. Et vous avez ce débat, notamment dans les mouvements de la libre-pensée. Vous avez une partie des mouvements au sein de la Fédération de la libre-pensée, des gens qui sont contre toutes les lois qui étendent un devoir de neutralité aux usagers, aux citoyens. Oui, qui se mobilisent contre l'extension du devoir de neutralité aux usagers du service public, par exemple. Et qui se battent bec et ongle contre les financements indirects ou directs de lieux de culte musulmans. Alors, quatrième pilier, pour avancer vite, il y a cette dimension qui me paraît essentielle, qui est l'assimilationnisme républicain. C'est une question qui est essentielle. À un moment donné, pourquoi ça résonne chez un certain nombre des membres de l'élite, et pas seulement de l'élite, c'est que l'assimilationnisme républicain est puissant en France. Vous pouvez l'appeler aussi républicanisme assimilationniste. C'est comme vous voulez. L'enjeu, c'est quoi? C'est l'hégémonie culturelle. L'enjeu, c'est l'homogénéité culturelle. L'enjeu, c'est la cohésion. Et la religiosité musulmane visible est jugée, dans cette perspective, comme une rupture par rapport à cette posture et cette pensée assimilationniste. Alors, vraiment, pour résumer, pour passer rapidement, on continuera, j'imagine, on en débattra, je voudrais vous faire une citation de quelqu'un qui a été un des fondateurs, un des piliers du développement des études sur l'islam, de la formation de chercheurs en islamologie, en sociologie de l'islam, c'est Bruno Etienne. Une partie d'entre vous connaissent. Bruno Etienne, c'est une personnalité, c'est une figure importante des sciences sociales et de la pensée française sur la question du monde musulman et de l'islam en France. Bruno Etienne a été auditionné en 1987 par la commission Marson-Lot, commission à réforme de la nationalité. Que dit Bruno Etienne dans cette commission quand il est auditionné? Parce que dans la commission sur la nationalité, il est question d'islam. Parce que vous savez qu'il y a des conditions d'assimilation pour obtenir la nationalité. Et au fond, comment est-ce qu'on définit les frontières de l'assimilation? Qu'est-ce que quelqu'un d'assimilé? Enfin bref, il y a tous ces débats-là. Si vous voulez vraiment creuser sur cette question-là, il y a un ouvrage qui est formidable, qui a été écrit par le co-auteur du livre sur l'islamophobie, qui s'appelle Abdelali Hadjat, et qui s'appelle « Les frontières de l'identité nationale » aux éditions La Découverte. Décidément. Que dit Bruno Etienne? Je cite, les musulmans ne sont pas intégrables. Je suis tout à fait cohérent. Point. C'est explicite. C'est surprenant quand vous avez lu Bruno Etienne, notamment tous ses ouvrages, que vous avez entendu Bruno Etienne, vous vous dites, c'est quand même assez surprenant. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intégrables? Parce qu'ils sont incapables de distinguer ce qui relève de la sphère privée et de la sphère publique. Et qu'il y a une espèce de confusion intrinsèque. Je répète, les musulmans ne sont pas intégrales, je suis tout à fait cohérent. Je vous invite à aller lire les débats de la commission Marson-Lot. Donc, quand on lit ça, on est quand même assez frappé, mais au fond, c'est comme ça qu'est définie la frontière de l'assimilation. C'est une des frontières implicites. Et quand on regarde les refus de naturalisation au nom de la condition de manque d'assimilation, c'est très souvent, et Abdelali Hadjat le montre, en lien avec le rapport à la religiosité musulmane, à la pratique et à sa visibilité. Donc, beaucoup d'avocats aujourd'hui disent à leurs clients, écoutez, quand vous allez aux entretiens, enlevez votre foulard, habillez-vous comme ça, dites cela et répondez ceci. Parce que pour beaucoup de praticiens, d'avocats ou d'autres, c'est une frontière symbolique. Et aujourd'hui, ce discours-là, il se disait en commission, le mot assimilation était devenu une espèce de gros mot, il revient force dans le débat public. Et aujourd'hui, vous avez des responsables politiques majeurs, notamment à droite, qui disent qu'un certain nombre de citoyens sont inassimilables, qu'il ne suffit pas d'avoir des papiers pour être français, et qui disent le voile est contradictoire avec la citoyenneté, avec l'identité nationale française. Sans parler de l'extrême droite, je vous parle de personnes qui sont des partis politiques mainstream. Sur quel thème le nouveau parti Les Républicains organise sa première convention? Non pas sur le suicide des jeunes, non pas sur le chômage qui atteint des records, non pas sur la question du système de santé qui est bancal, non pas sur des questions majeures hein, pour le quotidien de chacun d'entre nous, non, sur l'islam. C'est tellement central, tellement structurant que ce nouveau parti organise sa première convention sur ces thématiques-là. Et enfin, cinquième pilier, c'est la question du mouvement féministe, la dynamique féministe dans la société française. C'est quand même une dynamique de fond qui s'est accélérée ces dernières années pour obtenir un certain nombre de très belles victoires. Mais on voit très bien que la question du foulard islamique est structurante. Hier ou avant-hier, je lisais que une section du mouvement Oser le féminisme, la section de Lyon, je crois, enfin du département de Rhône-Alpes. Et en fait, c'est toute la section qui a démissionné, tout le bureau qui a démissionné. Pourquoi ? Mais parce que la direction, alors il y a des choses au niveau de l'organisation interne, mais il est reproché à la section nationale, au porte-parole, au bureau national, de ne pas se positionner assez clairement sur cette question de l'islamophobie. Et où est le clivage ? Le clivage, il est dans la définition et dans la conception même du féminisme. En gros, pour synthétiser rapidement, vous avez un féministe qui dit... D'une part, le féminisme, c'est le fait de lutter pour que les femmes puissent disposer librement de leur corps. Et certaines s'arrêtent à ça, et du coup ne considèrent pas comme contradictoire, à partir du moment où c'est un choix libre, le fait de se revendiquer comme femme et le fait de s'habiller et de mettre un habit religieux, de porter un foulard ou autre. D'une part, et ça c'est un courant qu'incarne Christine Delphi, je vais très vite. Hein. Et puis vous avez un autre courant qui est quand même majoritaire, qui considère que par définition, le port du voile, qui est un signe patriarcal de domination à l'homme, est complètement contradictoire avec l'idée même et du féminisme, et doit être combattu en tant que tel. Et vous avez bien vu que lors de tous les débats sur le voile, ça... Vous avez eu l'implosion, en tout cas une fragmentation du milieu féministe, du mouvement antiraciste, d'un certain nombre d'associations, de fédérations, parce que c'est quand même deux conceptions très, très, très structurantes de cette représentation de la liberté individuelle. Et je conclue avec ça parce que, au fond, c'est des ressorts qui sont profonds, qui ne doivent pas être négligés. Voilà. C'est des ressorts qui sont. Il ne suffit pas de dire à une personne qui tient des propos hostiles. Vous êtes islamophobe et sur quoi ça repose, quelles sont les craintes, pourquoi ça résonne, autant. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de pointer. Des fois, ça peut résonner pour des causes tout à fait positives et ça résonne. C'est ça qui est compliqué avec ce phénomène-là. C'est que ça résonne pour une partie, je ne parle pas des professionnels de l'islamophobie, ceux qui ont fait carrière là-dessus. Tu en as cité quelques-uns. Une en particulier. Mais je parle vraiment de personnes qui sont dans une réflexion approfondie sur la cohésion, sur l'avenir, le devenir du lien social, etc., et qui se disent, est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, une impossibilité ? Est-ce qu'on n'est pas dans un retour en arrière ? Est-ce que, finalement, un certain nombre de luttes ne sont pas remises en question ? Et on ne peut pas limiter... À force de faire des débats, ça me paraît de plus en plus clair, mais cette question... et c'est pour ça que l'usage du terme islamophobie est compliqué de manière assez... de l'utiliser de manière assez, assez ferme. La conséquence de ça, et à mon avis, l'avenir est beaucoup plus inquiétant que le présent. Je vais vous dire pourquoi. D'une part, parce qu'au fond, il y a un problème musulman, c'est devenu une évidence sociale, et il faut lui apporter des réponses. Quelles réponses ? Alors, la première réponse sur laquelle les pouvoirs publics ont mis le paquet, c'est au niveau des lois de restriction des libertés et d'une modification du principe même de la philosophie initiale de la laïcité. Je partage, moi, ce concept de nouvelle laïcité. Je pense, mais je peux vous l'argumenter, qu'on est dans une nouvelle laïcité. La laïcité de 1905, c'était une laïcité qui était globalement accommodante. Comment ?
C'était seulement une loi.
Une loi de séparation. Oui, oui. Ah ben si, c'était l'objet de combat, là, pour le coup. Mais justement, en 1905, il y a eu ce combat-là. Il y a eu des tentatives, par exemple, d'interdire la soutane. Émile Combes, à l'époque, a voulu interdire la soutane dans l'espace public. C'est le courant Aristide Briand qui l'a emporté. Non, parce que ça devait être une loi de séparation, une loi libérale. Et au fond, les piliers de cette loi de la laïcité, pour moi, la laïcité, c'est pas une valeur, c'est un mode d'organisation. C'est pas une valeur en soi. Par contre, elle repose sur des valeurs. La valeur première, c'est la liberté. Et la liberté de conscience. Et la liberté de manifester... dans la liberté de conscience et la liberté de croyance et de la manifester. Donc jusqu'au 14 mars 2004, c'est ça qui prévaut. Jusqu'au 14 mars 2004, c'est ça qui prévaut. La loi du 15 mars 2004 est une rupture. Mais sans parler de « on est d'accord ou pas d'accord », juridiquement, c'est une rupture. Parce que, à l'instant, ce que tu as dit tout à l'heure, l'extension du devoir de neutralité à des usagers. Et elle ouvre une brèche. Cette brèche n'a cessé de s'étendre. La semaine dernière, il y avait un colloque sur laïcité et enseignement supérieur. Laïcité et enseignement supérieur, qui est à la manœuvre, qui était à la table, les mêmes acteurs qui étaient dans le pôle laïcité du HCI. Pour qui François Hollande a mis, en créant l'Observatoire de la laïcité, il a cessé avec la dynamique, il a rompu avec la dynamique précédente. C'est les mêmes acteurs, avec la même stratégie. La même stratégie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les présidents d'université ne veulent pas de loi, les syndicats étudiants ne veulent pas de loi, personne ne s'en plaint, vous avez eu 2-3 cas isolés en France, des cas concrets pour lesquels on peut creuser. Vous regardez le cas qui revient le plus, c'est le cas de l'IUT de Saint-Denis, où le responsable de l'IUT de Saint-Denis a été l'objet de, dit-il, on peut le croire sur parole, de menaces de personnes qui avaient des revendications religieuses, qui a été objet de menaces, de pneus crevés, etc. Bon, contre les menaces, le code pénal le répond aux menaces, les pneus crevés, le code pénal répond aux dégradations de biens privés. Le règlement intérieur était suffisant pour s'imposer par rapport aux demandes, et une demande, c'est une demande. On ne peut pas interdire une demande en tant que telle. Bon. Je veux dire que, juridiquement, l'IUT de Saint-Denis a les moyens de gérer ce qui s'est passé sur place et de manière très isolée. Mais vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. Et déjà, Nicolas Sarkozy s'est positionné pour l'interdiction, ou en tout cas pour l'extension de la loi de 2004 aux universités. L'extension, c'est aussi la sphère du privé. C'est-à-dire le monde de l'entreprise ou bien des associations subventionnées avec des missions de service public, subventionnées par l'État. L'affaire Babylou, par exemple, qui a eu un parcours juridique et judiciaire assez hallucinant, assez rare. Et donc on voit qu'un certain nombre de personnes sont mobilisées pour étendre au maximum le devoir de neutralité dans des espaces qui n'ont jamais été concernés par la loi de 1905. Donc c'est une nouvelle laïcité qui rompt avec le principe d'égalité entre les citoyens et entre les cultes, parce que c'est des lois qui visent essentiellement un groupe en particulier, même si elles ont une portée générale. Mais c'est surtout les conséquences de cette loi. C'est-à-dire que moi, là où je ne vois pas trop où ces personnes-là veulent en venir, et c'est mon dernier mot, bon, le but, c'est quoi? Une fois qu'ils auront interdit aux nounous d'être nounous, aux étudiants de porter leur voile ou d'aller travailler dans le monde de l'entreprise, une fois que ce sera interdit à l'université, une fois même que ce sera interdit dans la rue, qu'est-ce qui est escompté? C'est vraiment une vraie question. Et on leur pose pas souvent. Qu'est-ce qu'ils escomptent? Qu'est-ce qu'ils attendent, en fait, par rapport à toutes ces lois restrictives? Voilà. Je m'arrête là et je vous remercie.